Donc, nous parlons de la résurrection, mais selon le texte de Jean 21. Et au verset 1, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Mais bon, écoutez, c'est assez étonnant, parce que au verset 14, c'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. C'est assez étonnant, pourquoi ? Parce que vous allez voir que si vous regardez les évangiles, mais prenez la peine de pédaler dans tout ça, parce que c'est parfois, on se dit, j'arrive pas à mettre un plan, un ordre là-dedans. Vous avez un ange qui est devant le tombeau, qui dit à Marie Magdala, Jésus n'est plus là. Puis vous avez un autre ici qui est, il y a deux anges dans le tombeau, Marie Magdala arrive avec d'autres dames, Marie, mère de Jacques, Marie, mère de Jésus, Jeanne, Salomé, Suzanne. C'est encore différent suivant deux textes. Et elle rentre dedans, il n'est point ici, regardez, les anges étaient assis en face. Et dans un autre cas, ils étaient assis à la place où il y avait le linge de Jésus. Tout ça, ce sont des détails. Si on vous demandait de raconter ce qui s'est passé ici demain, vous donneriez des détails identiques et aussi des détails différents. Ça, c'est l'être humain. Ça montre bien que nous sommes bien limités et que nous faisons un reportage des choses un peu à notre manière. Mais il y a quand même des choses identiques et qui vont faire la trame du récit de la résurrection. Mais quand on regarde bien, quand Marie de Magdala y va seule, elle retourne tout de suite le dire. Les disciples ne croient pas. Ensuite, on voit un autre récit où elle est avec des femmes. Puis là, elles vont le dire aux hommes. Et là, Pierre et Jean courent voir. Ils ne rencontrent personne. Mais lors du deuxième trajet de Marie de Magdala, qui est avec d'autres, elle rencontre le jardinier, ce qu'elle croit être le jardinier. Et c'est Jésus. Donc, Marie de Magdala avait vraiment le désir de voir Jésus-Christ ressuscité, mais pas les autres. Pas les autres, hein, les amis. Ça, c'est quand même un abîme, hein, où il y a le désir de rencontrer Christ, où il y a tout le monde est sur les jantes. Hein. Pensez bien que dans les églises, je dirais, beaucoup sont sur les jantes, et de temps en temps, l'un ou l'autre a le feu sacré. Et il faut se secouer, évidemment. Et vous voyez bien que celle qui a le feu sacré va secouer les autres. C'est un schéma qu'on retrouve, hein. Pas d'illusion à se faire. C'est la réalité des choses. Ensuite, quand elle l'a vu Jésus-Christ, après l'avoir confondu avec un jardinier très noir, on voit que Jésus se manifeste dans la pièce haute où tous les disciples sont là. Semble-t-il, il manque Thomas, parce qu'il a dit, moi je ne croirai rien tant que je n'ai pas mis les doigts dans les trous des mains, des pieds et du côté. Donc plus tard, une semaine plus tard, il y a de nouveau une apparition. Mais si on compte bien, il y en a deux, et la troisième, ben la voilà. Jean, chapitre 21, verset 14, c'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Oui, mais ce n'est pas le même endroit. Il y a deux, trois jours de marche. Il n'y a pas de TGV, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas de train, ni de RER. Hein? Donc pratiquement, aïe. Aïe. Ben, ça veut dire que, je pense, hein, parce que la première apparition dans la chambre haute, c'est le soir même du premier jour. Quand Marie de Magdala a parlé dans la matinée, au soir, il apparaît à tous sauf à Thomas. Bon, pratiquement, je pense que pendant que les disciples d'Emmaüs, eux, se tirent, eh bien, il y en a qui se tirent vers le nord. Il n'y en a pas que deux qui se sont tirés. Et vous voyez ici, regardez bien, Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël et les fils de Zébédée, donc Jacques et Jean, ça fait quatre, et deux autres, ça fait six. Si je compte bien, hein. Trois, cinq, sept. Il y en a sept. Le chiffre est parfait dans la Bible. Sept. Alors les autres, ils sont où? Ça veut dire que le groupe se divise. Ça veut dire que c'est la pagaille. Ben, ça ressemble assez bien souvent aux églises. Hein. Moi, je dis, il y a rien de neuf sous le soleil. Bon, d'un côté, paf, de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, ben, il faut que Jésus les rattrape tous. C'est lui le berger. C'est pas les brebis. Les brebis ne se rattrapent pas toutes seules. Ça, c'est des grandes leçons. Ensuite, quand il va les retrouver, eh bien, ils sont préoccupés d'abord de la bouffe qu'ils pensent. L'argent à fin du mois sur le compte, l'auto, hein, il faut mettre de l'essence pour aller travailler, et tchik et tchak, hein, il faut aller travailler. Mais ça, c'est l'image. Ils vont pêcher, mais ils ne trouvent rien. Bon, j'ai perdu mon boulot, je suis au chômage. Bon, je n'ai même plus le droit au chômage. Oula. Bon, la société où je travaille fait faillite. Alors, pratiquement ce qui se passe, il y a ici des hommes en détresse qui recherchent à gagner leur croûte, qui ne savent plus où ils en sont, ils avaient arrêté tout, et puis, ils pédalent. Hein. Ils pédalent sur les mastics, ils n'arrivent plus à faire avancer le vélo, ils ne trouvent pas de poisson. Verset 5, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ? » Ils lui répondirent, « Non. » Quand même bizarre que des hommes adultes expérimentés, Jésus les appelle enfants. Ben moi je pense qu'à un moment donné, on est bien bas dans la vie. Peu importe ce qu'on croit qu'on est, à un moment donné on est bien bas. Paf! Et ça Jésus met le doigt dessus. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Moi je pense que souvent, après avoir été orgueilleux et autosuffisant, avoir pris des tas de décisions nous-mêmes, nous en arrivons à un moment où on est sur la caisse et il faut bien se dire que c'est là que le moment attend, le Seigneur attend, parce que nous avons besoin d'humiliation. Regardez le psaume 119. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Il m'est bon d'être humilié, ô Éternel, car tes commandements et tes ordonnances sont saintes. Hein? Tu n'as point de mépris des eaux que tu broyas, ô Éternel. Tiens. Et puis, psaume 32. Heureux celui à qui Dieu, l'Éternel, n'impute pas son péché, qu'il efface ses transgressions. La première transgression, c'est l'autosuffisance. C'est l'indépendance. Je vis, je prends mes décisions, Dieu, je le consulterai si ça ne va pas. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu les choses. Si la lune et le soleil faisaient ça, ben demain c'est la collision. Si demain les océans faisaient ça, ben demain la Terre ne tourne plus à 543 mètres secondes, elle tourne à 300, ou elle s'arrête, elle redémarre, les océans passent au-dessus, il n'y a plus rien. Tout est ordonné. Mais l'âme de l'homme, parce qu'elle a la capacité de dire non, il fait tout le contraire. Ce n'est pas parce qu'on est libre qu'on doit dire non à la direction de Dieu. Je pense que la vraie liberté, c'est de savoir et connaître ce qu'est Dieu. C'est mon bien, c'est mon refuge, c'est ma forteresse. Les fondements de Dieu sont bonté et fidélité. Ça, c'est l'intelligence, la vraie, pas celle que le diable a donnée dans la vanité et l'orgueil. Alors, ici, c'est une expérience d'humiliation extrêmement importante, après bien des autres, hein. 3 ans pourtant avec. Hein. Et nous, combien de temps qu'on est chrétien, ou qu'on se dit chrétien, il y a des humiliations qui nous attendent encore, parce qu'on n'a pas encore compris, ou on ne veut pas comprendre. Ils le jetèrent donc, ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Verset 7. Le disciple que Jésus aimait, donc, avec qui il a une relation de confidence, une relation privilégiée, c'est le Seigneur. Il dit ça à Pierre. Ben oui, parce que lui, il est resté à la croix avec des femmes. Hein. Puis à un moment donné, les gaillards l'avaient vu, ils ont couru après pour l'attraper, et ils l'ont attrapé par les vêtements, comme le chien de fait. Hein. Quand il voit arriver une femme avec des grandes robes et tout le bazar, il attrape la robe, et la femme, elle peut le sauver, elle n'a plus rien. Hein. Le gros chien de... Alors, il faut qu'il tienne son chien quand arrive des femmes. Alors, pratiquement, ce qui se passe ici... Ben, c'est que là, il y avait des chiens qui couraient après les chrétiens, et pratiquement, Jean est parti tout nu, s'est sauvé tout nu, oui, pour ne pas se faire crucifier aussi. Mais Jean aimait beaucoup Jésus, il était là. Et verset 7, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement, sa ceinture, car il était nu, se jeta dans la mer. Croyez bien qu'il n'était pas tout nu. Nu et tout nu, c'est pas la même chose. Les juifs ne se mettent pas tout nus. C'est un péché grave. C'est un péché grave, il faut lire Lévitique, chapitre 16 à 21.
Je pense que c'était quand même avec quelque chose ici, papa.
Voilà. C'est ça que ça donc, le maillot de bain moderne que nous avons avait son répondant à cette époque-là. Je ne sais pas comment c'était fait. Alors, quand il se rhabille, c'est parce qu'il veut donner du respect, il veut donner de l'honneur à Jésus. Bien qu'il était complètement sans aucune foi à ce moment-là. Il n'avait plus qu'un cœur rongé par les déceptions, accablé par les désolations. Ça peut arriver chez nous chrétiens, de passer par des étapes pareilles. Vous savez comment on s'en sort? Vous savez comment on s'en sort? Parce que ça m'est déjà arrivé. C'est le jour que humblement on dit merci Seigneur. Pour ce qui m'arrive, Seigneur, je compte sur toi. Et je te rends grâce, c'est mon Dieu. Et mon Seigneur. Après, les choses changent. Il ne veut pas lui être bien bas, parce qu'on ne dit pas facilement merci. On ne reconnaît pas très bien la grandeur du Seigneur dans notre vie. Oui, au culte, ça va, mais dans notre vie, c'est différent. Alors, ils vont manger, bien sûr, et ils vont voir que Jésus interroge Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Trois fois. C'est la troisième manifestation, de Jésus ressuscité. Donc si on regarde tous les autres textes, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe donc? Donc si je compte bien, l'apparition à Marie de Magdala, au départ comme jardinier, mais ça c'est la cause de l'obscurité, puis ensuite à tout le groupe des onze, mais il n'y a pas Thomas, ça fait dix, et après, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a un groupe qui a pris les voiles. Hein, je ne vais pas dire autrement, d'ailleurs ils vont sur la barque, il y a une voile. Et pratiquement, de l'autre côté, il y en a deux vers Emmaüs. Et ça a des bandades. Il y en a sûrement autre part aussi. C'est-à-dire des bandades générales. Comme berger n'est pas là. Et ça, c'était mis dans Malachie. Je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. C'est l'accomplissement de la parole. Alors, après ça, quand Jésus leur a apparu, que Pierre a confessé qu'il l'aimait, go, Jérusalem. Pratiquement, il retrouve les autres. Deuxième apparition avec Thomas. Et retour des deux disciples d'Emmaüs aussi. Groupir, comme dans le film de Louis de Funès. C'est le berger qui a été recherché toutes ses brebis. Ensuite, accomplissement d'Ésaïe, de Ézéchiel 35 et 34. Je recueillerai mes brebis, je les panserai. Celles qui étaient blessées, qui étaient abattues, etc. Bon, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement de Jean chapitre 10, je suis le bon berger, et du psaume 23, qui me conduit vers les verts pâturages, etc. C'est tout ça le thème, là. Et pratiquement après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres apparitions qui vont arriver, évidemment. Et penchez-vous sur les textes, vous allez les voir, elles sont encore nombreuses. Et à un moment donné, tout le monde repart en Galilée. Allez en Galilée, je vous y précède. Et là, on voit dans 1 Corinthiens 15 qu'il y a 500 frères plus les 11. Là, il y a du monde, hein? Parce qu'il a rassemblé toutes les brebis. 1 Corinthiens 15. Ben, quand on voit que la Pentecôte, c'est 50 jours, pourquoi est-ce qu'il a fallu tout ce temps-là? Ben, parce que les brebis s'étaient dispersées. Et que rattraper tout ce beau monde-là, surtout qu'ils disent oui. Oui, Seigneur, je t'aime. Maintenant, je te donne ma vie et je te suis. Ah oui. Parce que 3 ans avant, viens, suis-moi. Mais ils ont suivi. Ils guérissaient des malades. La multiplication des pains. Il chassait des démons. Ben oui. C'est intéressant tout ça. On n'a jamais vu ça. Et ça, c'est la foi, ça. Attention, les coureurs de signes. Attention si vous êtes des coureurs de signes. Il vous faut des trucs de puissance pour donner votre vie à Jésus. Eh bien, Jésus ne prendra pas tout ça. Ça, c'est pour annoncer la venue de ce royaume, la restauration du monde, tous ces signes-là. Quand le règne est établi, il n'y a plus ni mort, ni chagrin, ni deuil. C'est des signes avant-coureurs. C'est pour montrer les promesses de Dieu. Mais la foi n'est pas donnée par tous ces signes-là. La vraie foi, c'est un don spirituel qui vient dans notre cœur, dans notre âme. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Afin que nul de nous ne se glorifie. Il est gratuit, cadeau immérité. Dans certaines églises, si on vous parle de signes, de puissance, etc., et tout le reste, ne croyez pas que vous aurez plus la foi après. Je serai encore peut-être beaucoup plus charnel qu'avant. Regardez bien les disciples. Ils sont tous dans le coltard, dans le goudron. Ils ne sont pas dans la foi. Il faut que Jésus soit ressuscité et que le don de la foi soit fait. Alors, ne confondons pas les torchons et les serviettes. Les signes ne sont pas forcément ce que Dieu choisit comme moyen de vous donner la foi. C'est mis dans Jean chapitre 14 et chapitre 16 que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de sainteté, de rédemption. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est où ? Il est là quand j'ai plein d'émotions, quand je vois des tas de miracles, des paillettes d'or qui tombent du ciel et des autres trucs. Mais non ! Le premier signe du Saint-Esprit, Romains 5, 5, c'est l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tiens, l'amour de Dieu, ben oui, parce que sur la terre, on ne trouve pas dans les magasins, même pas dans les cœurs. Il faut qu'il soit donné d'en haut, l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit. Voilà la première œuvre du Saint-Esprit. Et c'est l'œuvre de vie par excellence, c'est le don de la vie, parce que dès le moment où on est connecté dans un amour, non pas psychologique, hormonal, endocrinien, un amour spirituellement donné d'en haut, nous sommes sauvés. Maintenant, 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, 1 Corinthiens 15, verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Qu'il a apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il a apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Puis, il est apparu à Jacques, le cousin de Jésus, donc responsable de la première église à Jérusalem, à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Ce n'est pas un enfant de cœur celui-là. Alors, pratiquement, vous voyez bien qu'il y a eu pas ces 500 personnes-là. Donc, après avoir rassemblé tout le monde, mais Jésus n'a pas marché de Jérusalem à pied devant eux en disant « Venez, on va s'arrêter au McDonald's pour manger ensemble, on va aller voir au Quick. » Non, non, allez-y par la foi. Je vous rejoins là-bas, je vous précède. Donc, ils ont marché et ils ont dû se parler entre eux. Et vous savez comment que ça va quand on est à 500, plus de 500, quand on se parle entre eux ? Hein ? Ben, on s'échelonne, parce qu'il y en a 3-4 qui parlent ensemble, il y en a des autres qui s'asseyent, il y en a des autres... Oh, si c'est Marie-Hélène, par exemple, elle voit des fleurs, oh, elle voit quelque chose de beau, et puis un peu plus loin, à 600 mètres, c'est Bénédicte. Bon, pour finir, quand ils arrivent, les premiers arrivent, on monte à bord, hein, puis il y a ceux qui sont vieux, qui ont des cœurs, il y a ceux qui courent, qui, comme des lapins. Ben, tout ça, bon, ça, tout le monde est là, je vous attends. Jésus veut montrer qu'il a fait un troupeau, un seul, deux brebis, et personne n'a été plus malin les uns que les autres. S'ils n'avaient pas été recherchés, il y en avait zéro sur la colline. Personne n'a été plus malin les uns que les autres. C'est le Seigneur, dans sa miséricorde, qui a donné Jésus comme berger pour créer un nouveau peuple. C'est une grande leçon de simplicité, les amis. Une grande leçon de grâce. C'est pas étonnant que ça a duré 50 jours. Oui, ça n'a pas étonnant. Alors, je me demandais ce matin, j'ai des réunions, j'ai des caisses, hein, j'ai plein de prédications prêtes que je n'ai qu'à lire, à méditer, de préférence au moins une semaine, hein, quand même, pour être responsable de ce qu'on fait. De ce qu'on dit, de ce qu'on est, pratiquement au matin, je dis Seigneur, cette résurrection-là, qu'est-ce que tu es venu nous apporter? Ce n'est pas seulement des paroles que je dois dire qui touchent l'oreille. Hmm? Et puis qu'on oublie toute la semaine, ou qu'il reste trois mots. C'est quelque chose que Dieu fait, que le Seigneur souhaite lors d'un culte. C'est ce que Dieu fait dans l'âme pour toujours, qui est éternelle, qui se fait dans le cœur de chacun de nous ici. Alors, je me suis posé la question et j'ai vu que pendant les 50 jours, Jésus était patient et exerçait ses grâces sur cet ensemble de personnes pour leur donner une certitude, c'est qu'il est vivant, une certitude, c'est qu'il est saint, qu'il est plein d'amour pour eux et qu'il ne les abandonnera jamais. Matthieu 28. Mais quand c'est jamais, c'est jamais. Et là, de là, les conclusions pratiques, on peut en tirer. Matthieu 28. Comment puis-je croire, Seigneur Jésus, en toi? Ah, parce qu'on me l'a dit, j'ai lu, j'ai entendu une prédication. Mais comment, Seigneur, vu, tu connais mon état, et tu vois bien tous ces 500 aidés qui ont été, regarde-les, je suis comme eux. Comment puis-je, Seigneur, vivre avec toi, sans retomber toujours le bec dans l'eau, en t'oubliant de mettre de côté? Ben, moi, je vais te le dire. Je suis le berger, et tu es la brebis, c'est moi qui vais te chercher. Considère-toi comme une brebis, et pas comme un matamor, un super-héros, un super-chrétien, ou un moi-jeu. Ne crois pas que tu es capable de conduire ta vie sans moi. Ah oui. Bon. Ça va recommencer souvent, ça. Hein? La leçon de l'humiliation. Jérémie l'a dit au chapitre 7. L'homme, sache que la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Elle est dans les mains de l'Éternel. Jérémie disait ça au peuple. Alors, eh bien, c'est ce que Jésus a voulu faire comprendre. Mais il a ajouté quelque chose qui est nouveau. Verset 18. Matthieu, chapitre 22, verset 18. S'étant approché, il leur parla ainsi.
759.
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir de reprendre mon cœur régulièrement. Le pouvoir d'être plus fort que mon péché, mon indifférence, ma vanité, mon espèce de pseudo-intelligence. Le pouvoir de me conduire malgré ma nature qui a toujours tendance à ne pas être honnête avec lui. Ce pouvoir, Jésus l'a, parce que son amour est infini et sa puissance est infinie. Le pouvoir de rattraper n'importe lequel qui pêche, à partir du moment où Jésus l'a réellement appelé un jour. N'est-ce pas? Alors, s'il l'a réellement appelé un jour, il lui a parlé à son cœur et il lui a montré qu'il était un pécheur. Et il lui a montré qu'il était venu pour lui, pour changer sa vie, pour briser son péché, et qui était mort pour lui. S'il y a eu ça, oui, ce chrétien va encore s'écarter, mais le berger reviendra le chercher tout le temps. Parce qu'il est bon et fidèle, à l'infini. Et les 50 jours, avec les manifestations, l'ont bien montré à ses disciples. Parce que tout pouvait être réglé en une apparition, hein. Zoom, un flashoir. Bon, comme dans certains films, d'ailleurs, sur Jésus. Alors, la pédagogie de Jésus, c'est quand même la patience, la persévérance, c'est l'amour. L'amour pour que, en nous, ce pouvoir de Jésus, qui est sur la terre, nous attache à lui. Nous attache vraiment à lui. Nous sommes des chameaux. Mais le Seigneur a inventé le dromadaire. Le dromadaire, oui. Parce que la coldrome adhère. La coldrome adhère. Eh bien, chez le chrétien, les amis, s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, il courait toujours. Ah, le faux christianisme. Le christianisme historique qui a fait des guerres, qui se complait avec toutes les injustices du monde, ça, c'est le chameau. Il n'a pas la colle adhère. Alors, regardons ce que Jésus dit. Faites de toutes les nations des disciples. Donc, il y a l'enseignement. Ça fait partie de la pédagogie de Jésus. les baptisants, l'obéissance, baptizo, immergé, vous êtes mort sur la croix avec moi. Et je vous relève, vous êtes né du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, bien que je sache qu'ils vont désobéir, mais là je les rattraperai. Hein. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ici, on a réellement l'affirmation que Jésus est le berger pour toujours d'une âme qui a été appelée, qui est sauvée. On a réellement ça. Et je vais vous dire, moi, à un moment donné, j'ai manqué de me faire puer. Dans le boulot, déjà, dans plusieurs fois. 4 fois sur le même mois, une fois. Je me demandais ce qui m'arrivait sur les chantiers. Franchement, je me demandais pourquoi ça m'arrivait, quoi. Et puis, à d'autres moments, après, quand j'ai évangélisé, c'est pas de la tarte, des fois. Évangéliser, certains. Mais pratiquement, j'ai vu que le berger était là. Donc ça veut dire qu'un jour je meurs, mais quand le berger veut bien. Maintenant, j'ai péché, je fais des choses. Je ne sais pas ce que Jésus veut bien. Moi, je suis tombé sur des drôles de lascar, des chrétiens. C'est parce que Jésus veut bien. Il est tellement amoureux. C'est pas grave que je pèche. C'est pas grave que je fasse ci ou fasse ça. Il est tellement amoureux, il est tellement grand. Ça, c'est se moquer de lui. Hein. J'ai dû, et pourtant des gens avec un niveau de fréquentation dans les églises, de connaissances, purée, quand j'entends ça, oulala Seigneur, le diable est en train de le rôtir. Parce que là, il parle au nom de sa propre liberté à lui, pour faire n'importe quoi. C'est les Nicolaïtes dans les églises de l'Apocalypse. 4 églises sur 7 avaient des Nicolaïtes. Je vis sous la grâce. Mais je peux quand même pratiquer le péché, puisque je suis sauvé, j'ai reçu le pardon par grâce. Et dans notre monde moderne, en Europe, comme autre part, il y a cette doctrine est rentrée dans les mœurs des chrétiens. C'est pas ça que Jésus a voulu dire. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, tous les jours, dans ma chambre, dans mon auto, dans mon lit, dans mon travail, dans mon cœur, dans mes pensées. Alors Jésus est là. Et il me dit ceci, je suis à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix,
j'entrerai.
Et que tu m'ouvres,
et je mangerai.
Je mangerai avec toi et tu mangeras avec moi. Apocalypse 3:20. Bon, si Jésus a dit ce verset, c'est que réellement, c'est la réalité. Alors, Apocalypse, chapitre 3, verset 20. La réalité de nos églises. C'est la force de l'église, c'est l'action de Jésus-Christ dans l'église. Ce n'est pas la grandeur du bâtiment, la belle bagnole du pasteur, ou comment il crie, comment il saute, etc. La force, ou qu'il arrive, parce qu'il a un peu des côtés médiums avec, qu'il arrive à convaincre les gens. La force de l'Église, c'est Jésus-Christ. La richesse de l'Église, c'est Jésus-Christ. Alors, regardez bien. 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Donc, c'est qu'il est hors de l'Église. Donc, c'est qu'on a pris l'habitude de vivre dans le péché, dans lui, et qu'il est derrière. Il n'est même pas dans le placard, il est dehors derrière la porte. L'Église. Oui, donc ce n'est pas le titre qui fait l'Église, c'est la présence de Jésus-Christ qui fait l'Église. Je me tiens à la porte. Tant qu'il est encore derrière la porte et qu'il frappe pour rentrer, c'est que l'Église a encore une certaine valeur aux yeux de Dieu. Hein. Mais s'il n'y est plus, ben c'est foutu. Hein. Le torchon est brûlé. Hein. Alors, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Pourquoi ce repas? Ben parce que c'est dans Ésaïe, chapitre 25, hein, à la fin des temps, quand tous les peuples sont réunis à Jérusalem, on mange tous avec Jésus à table. Et on a réussi. Ésaïe 25. La réussite de l'Église, c'est quand nous serons à table avec le Seigneur Jésus. Donc Ésaïe. La réussite d'une sainte scène. La réussite d'une sainte scène, lorsqu'on prend le pain et le vin dans l'église, c'est qu'on sait tous qu'on sera à ce repas-là à la fin des temps autour de Jésus. Autrement, singerie. Singerie. Singerie religieuse. Ésaïe 25, verset 8. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents. Dire que Tanguy est vendeur de vin, donc. Et il ne va pas pouvoir vendre pour cette réunion-là. De mets succulents, plein de moelle de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours, le Seigneur éternel essuie les larmes de tous les visages, il fit disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Donc, un peuple qui appartient à Jésus, on s'en moque. Un peuple qui appartient à Jésus, raconteur de bonnes femmes, c'est, tout ça, ça n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est mon fric, mes plaisirs, etc. Car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Donc, quand Jésus est derrière la porte, c'est parce qu'il veut les invités qui sont derrière la porte dans l'église, en train de faire des louanges, et qui ne vivent pas de lui, hein, mais ils font des louanges, hein, des cantiques, et tout le reste. Eh bien, ils ne vivent pas de lui. Lui, il est tellement un fidèle berger qu'il veut les emmener à cette rencontre-là. Donc, quand on prend la Sainte Cène, c'est l'expression de la fidélité de l'amour de Jésus pour nous réunir à tout ce peuple sauvé qui échappe à la mort, au chagrin, à l'enfer. Alors, le Jésus de Nazareth qui a guéri la petite fille du prêtre de Jaïrus, le Jésus de Nazareth qui a chassé les démons d'un enfant, le papa venait, viens au secours de mon incrédulité, mon fils se roule dans le feu, etc. Jésus a augmenté la foi du monde, et puis il lui dit que il va, selon ta foi, l'enfant a été guéri. Le centurion romain, son serviteur. On voit toujours des signes qui invitent à la foi. Ce qu'il y a, c'est que Jésus invite plus qu'à ça. Quand vous avez les noces de Cana, il y a plusieurs noces dans Cana, il manque de vin. Et Jésus change 600 litres d'eau en vin. Et Jean, dans l'apôtre, dans son évangile, dit que c'est la première fois que Jésus a montré sa gloire. La première fois qu'il a montré sa gloire. Le premier signe. Il n'y a pas le mot miracle dans l'évangile de Jean. C'est toujours séméion en grec. Ça veut dire signe, qui invite à la foi. Ce n'est pas une obligation de croire. C'est un signe pour appeler. Et ce qui se passe, c'est là qu'il a montré sa gloire. Pourquoi ? Parce que la vraie, la totale gloire est là, dans Ésaïe 25. Donc, quand Jésus de Nazareth vous dit de venir aujourd'hui au culte, quand Jésus de Nazareth vous dit tout à l'heure, au soir, prends ta Bible et prie, quand Jésus de Nazareth dit arrête de miauler, de penser qu'à toi, tourne-toi vers moi. Quand Jésus dit t'as encore travaillé toute la journée sans penser à moi, hein, t'as encore fait tout ton bastrinque, comme d'habitude, sans moi. Mais quand est-ce que tu vas changer, hein? Mais quand au départ de ma journée, je remets déjà tout au Seigneur. Et puis que je me le rappelle dans la journée. Et puis quand je dors, Seigneur, je vais scier du bois. Oui, Seigneur, je te remets mon tas de bois. Hein? Oui? Ça veut dire, je te remets tout. Tout est entre tes mains. Alors je reconnais à Jésus qu'il a tout pouvoir sur moi. Parce que regardez bien, si Jésus était comme beaucoup de gens qui ont des pouvoirs, il vous écrabouille, mais là il reste derrière la porte et il toque. Il a tous les pouvoirs et il reste derrière la porte, il attend que je dise oui. Donc la leçon de tous ces textes de la résurrection, de tous ces textes, les amis, soyons humbles, 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 le Seigneur Jésus a besoin d'un oui qui soit oui. Il y a un non à notre orgueil, à nos indifférences, à nos péchés, qui soit non. Et tout ce qui entre vient du malin. Jésus l'a dit dans Matthieu 5. Si nous ne comprenons pas ça, si nous ne mettons pas ça en pratique, nous avons chanté des beaux chants, nous avons lu des textes de Pâques, pour rien du tout. Nous n'étions que des hommes religieux. Donc, à ce moment-là, on est dans cette église de Laodicée où Jésus est dehors. Nous ne voulons pas être de cette église où Jésus est dehors. Nous voulons être de cette église où Jésus est dans notre âme, dans notre cœur, dans notre vie. Et nous lui donnons tous les pouvoirs. C'est pas facile de céder à ça, hein. C'est un sacré combat, hein. Parce qu'il y en a une couche, hein, depuis Adam et Ève. Ça s'est accumulé à toutes les générations, hein. Je me rappelle de quelqu'un qui m'a dit, oh, j'ai déturé mon fumier de l'écurie, de l'état d'un paysan. Ah, il y en avait, ça s'était accumulé. J'y arrivais pas avec mon tracteur, il a fallu que je loue un bulldozer. Et j'avais encore du mal, hein, tellement ça avait été piétiné. Mais ça, c'est dans nos âmes, hein. Oui. Et il y a mieux que ça. Je connais une école à... Pardon, Seigneur, c'est l'enregistrement. Une école primaire, tout est nickel en bas, hein. Mais dans le grenier, c'est des voûtes comme ça. Ça a été fait il y a déjà un certain temps. Dans le grenier, il y a 1,20 m de crottes de pigeons. Personne n'y va jamais. Ni le ministère, ni les inspecteurs, ni le maire, ni personne. Surtout de l'immense école. Il y a des pigeons depuis des années et des années, il y a une couche comme ça. C'est quelqu'un qui ouvrit à la commune qui me l'a dit. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons avoir l'impression d'être en ordre. Et malgré tout, d'avoir une couche de crottes de pigeons dans notre âme, dans notre cœur, dans notre intelligence, qu'on ne veut pas voir. Alors ce qu'il faut faire, Seigneur, ouvre la porte, viens manger avec moi et dis-moi ce que tu penses de moi. Pas rire de manger, hein, à la fin des temps, parce que j'ai peur de la mort, j'ai peur de l'enfer. Non Seigneur, dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que je dois changer ? Et puis, Seigneur, si j'y arrive pas, est-ce que tu veux m'aider? Est-ce que tu veux, Seigneur, briser en moi ces mouvements contraires? Pour un, c'est fumer. Pour l'autre, c'est manger tout le temps. Pour l'autre, c'est mentir. Pour l'autre, c'est ses sous. Pour l'autre, c'est quoi? Il y a toujours quelque chose. On a tous des trucs. On est tous pécheurs. Donc, nous devons donner à Jésus le pouvoir sur nos vies. Qu'elle soit sainte. La clé de la réussite, c'est que le Jésus Sauveur soit le Jésus Seigneur de ma vie. Ne choisissez pas un Sauveur pour mettre le Seigneur au placard, au-dessus des crottes de pigeons, au-dessus du tas de fumier que le paysan ne savait plus tirer. Ne soyez pas en train de vous tromper vous-même. Dieu ne s'y trompe pas. Seigneur, merci pour ton évangile, merci pour ta résurrection. Et surtout, Seigneur, merci que tu sois là aujourd'hui et que tu es l'artisan de la vraie vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la vie avec toi, Seigneur. Et c'est la vie où tu as le pouvoir de me changer. C'est la vie où tu as le pouvoir de me donner la paix et la joie parce que mon péché ne domine plus. C'est la vie et la joie de savoir que je ne me trompe pas moi-même parce que tu es ma lumière. Tu es le sel qui est jeté sur mon fumier. Seigneur, c'est toi la source de la vie. Je ne possède aucune vie par moi-même, Seigneur. Mais je t'ai reçu dans la vie. Je t'ai reçu dans la vie que tu me donnes. Je t'ai reçu dans la grâce que tu m'as donnée à la croix. Je t'ai reçu, Seigneur. Reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur. Dans notre église, reste avec nous, dans notre maison. Reste avec nous. Jour et nuit dans le travail. Je veux t'appartenir entièrement, Seigneur. Voilà ce que je peux t'offrir, Seigneur, pour te dire merci, pour ta passion à la croix, pour ton amour, pour tout ce que tu as fait pour moi à la croix. Je vois tout ce que je peux faire simplement, Seigneur, pour te célébrer, toi le vrai ressuscité, le Dieu vivant, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme qui viendra sur les nuées pour réunir tous les peuples à Sion. Amen.